Charles, un moment, vous savez, là. Bon, ben, je vous remercie d'être ici. Il commence à se faire un petit peu tard et certains enchaînent les tables rondes les unes après les autres et ça m'impressionne beaucoup. Donc, je vous remercie d'être là de nouveau à cette heure tardive pour écouter nos invités débattre sur le thème suivant. La science-fiction permet-elle de mieux penser l'histoire, qui est une question assez intéressante, je trouve. Alors, pour animer les débats, pour répondre à cette question, nous avons quatre personnes parmi nous, mais ça, vous avez pu les compter tout seul. Tout au bout, Francis Valéry, qui est écrivain de science-fiction, dont on a beaucoup apprécié Le Talent assassiné, un de ses derniers romans, et qui a également écrit La cité entre les mondes, qui, justement, est tout à fait dans le thème, puisque c'est ce qu'on appelle une uchronie. Donc, je vais laisser planer le suspense. Ou alors, il y a bien une ou deux personnes qui ne doivent pas savoir ce que ça veut dire. Donc, on va faire nos malins un peu, quand même. Hugo Bellagamba, qui est aussi écrivain, qui a publié une autre uchronie qui s'appelle Tancred, et qui est l'amusante particularité d'être historien. Historien du droit, à l'université. Francis Berthelot, qui, lui, publie plutôt des romans fantastiques. Hein, quand même, par exemple, Hades Palace, des choses comme ça. J'ai adoré Le jeu du cormoran. Et Jeanne de Batz, qui est parmi nous, qui est un écrivain qui écrit... C'est pour le quota féminin, je l'ai demandé sur le plateau. Qui écrit... ah oui, tout dans la délicatesse. Hein.
Je suis le nègre du Pentagone.
Qui écrit à la fois des romans pour la jeunesse, pour les adolescents, et des romans pour le secteur adulte. Dont on se demande si ce ne sont pas des romans jeunesse déguisés, mais ça, c'est un autre problème.
Monsieur Manfredo, je vous rappelle que vous êtes mon directeur de collection et qu'il va falloir arrêter ça tout de suite.
Excusez-moi, madame. Je vous recommande particulièrement La balade de trash publiée chez Cyrus dans la collection Soon. Et on lira également avec beaucoup de plaisir Plaguers aux éditions La Talente. Et La vieille anglaise et Le continent, bien sûr.
Il vous sera beaucoup pardonné car vous souffrirez beaucoup.
Oh, mais je souffre déjà beaucoup avec toi. L'idée est de se questionner sur les rapports entre science-fiction et histoire, rapports qui sont assez nombreux, même si on a souvent tendance, lorsqu'on pense à la science-fiction, à penser qu'il s'agit d'un genre littéraire qui ne se consacre qu'au futur, qu'à des futurs très éloignés. La science-fiction a donc des rapports avec l'histoire. On va le voir dans cette table ronde, on va beaucoup en parler. Et là, je vais être obligé de faire appel à notre historien et de lui demander, mais ça veut dire quoi penser l'histoire ? Ah, Hugo.
T'es content, là.
Cours, 3 minutes.
Bonsoir à tous, hein, désolé de ces private jokes, mais en fait... Non, on est très sérieux.
On est fatigué le soir, en fait.
Non. Mais je ne suis pas historien, en fait. Hein. Je suis historien du droit. Et donc, c'est pour les historiens, je suis un juriste. Et pour les juristes, je suis un historien. Ça vous donne un peu l'idée
ça s'appelle un
de là
bâtard.
Où je me trouve. Voilà.
Un bâtard.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'était penser l'histoire. Vaste question. Oui, la science-fiction permettait de penser l'histoire. Alors, la science-fiction se nourrit d'histoire, bien sûr. C'est même, je considère avec mon ami Jean-Jacques Régnier, qui n'est pas là en ce moment, mais qui est aussi un auteur très intéressant que je vous conseille, et qui est notamment l'un des organisateurs d'une future convention de science-fiction en 2013, que l'histoire est même la source principale de la science-fiction, plus que la science à proprement parler, et qu'en réalité, les écrivains de science-fiction puisent plus dans l'histoire que dans la science.
Mais l'histoire est une science, quelque part.
Non, mais quand je parle de science, science exacte.
C'est pour t'embêter.
Oui, non, mais t'as raison. Surtout que c'est un argument que je défends auprès d'Éric Pichol en permanence. Éric Pichol étant un ami physicien.
C'est parce que j'ai vu passer à nous que j'ai
pensé.
Oui,
elle est là. Mais bon, on va un peu arrêter aussi avec les private jokes parce que là, on n'est pas entre nous. Il y a quand même un public.
Moi, je ferai ça.
Et voilà. Ouais. Donc, je recadre. Donc oui, la science-fiction permet-elle de penser l'histoire ? Alors, elle s'en nourrit, ça c'est, je pense que tout le monde sera d'accord. D'ailleurs, Francis ici et Francis là s'en nourrissent de l'histoire, et Jeanne aussi. Après, permet-elle de la penser ? Ça dépend ce qu'on entend par penser l'histoire. Est-ce qu'elle permet de questionner l'histoire ou de la réinventer ? Alors, moi j'aurais envie de dire de façon simple que l'histoire peut être envisagée de deux manières. La première manière, c'est en tant qu'une succession d'événements. Qu'est-ce qui fait un événement historique ? Qu'est-ce qu'on peut, quels sont les éléments constitutifs d'un événement historique et comment on peut parler d'événement historique ? Puisque les uchronies s'intéressent à la divergence, c'est-à-dire à la survenue d'un événement historique ou à l'absence de cet événement. Et puis, d'un autre côté, penser l'histoire, c'est la modéliser, c'est-à-dire avoir des modèles de pensée historique. Et est-ce que la science-fiction peut contribuer à créer de nouveaux modèles, c'est-à-dire de nouvelles manières de penser l'histoire ? Alors, comme ce n'est pas une conférence, je vais essayer de faire très court. Sur le plan de l'événement, moi je pense que la science-fiction, et j'en suis convaincu, permet de réinventer l'histoire. C'est-à-dire qu'elle permet au public, aux lecteurs de la science-fiction, d'éventuellement, quand je dis réinventer, c'est redécouvrir, d'éventuellement redécouvrir des événements historique sous un jour nouveau. Pas que dans les uchronies d'ailleurs, hein. Je prends par exemple le cycle de fondation d'Isaac Asimov dont on a parlé. Eh bien, le cycle de fondation réinvente ou permet de redécouvrir cet événement historique qui est la chute de l'Empire romain d'Occident. Isaac Asimov s'inspire de façon très claire dans le cycle de fondation de cet élément historique. Donc, si vous voulez, par le détour de l'imaginaire, vous pouvez développer votre culture historique en interrogeant l'histoire sous couvert de fiction et sans doute, bien évidemment, retrouver le sens de l'événement historique. Qu'est-ce qu'un événement historique ? Qu'est-ce qui fait qu'un événement est historique quand il touche une collectivité, quand c'est une rupture, une révolution, une crise, une révolte, une insurrection ? De quelle manière la science-fiction interroge ces éléments-là de façon très fréquente en réalité ? Voilà, donc oui, elle permet de redécouvrir l'événement historique. Ensuite, est-ce qu'elle permet, la science-fiction, de modéliser l'histoire ? Est-ce qu'elle permet de trouver de nouvelles manières de réfléchir sur l'histoire ? Là, je serai quand même plus prudent. Si je réponds oui à la première question de façon claire, sur la deuxième, je reste prudent. La science-fiction, c'est d'abord une récréation, c'est d'abord un divertissement. Et aussi brillant que puissent être les auteurs qui en écrivent, ce ne sont pas des historiens forcément, même si certains sont historiens et auteurs. Et dans les modélisations de l'histoire, quand on pense à une histoire plutôt volontariste, une histoire plutôt marxiste, une histoire structurelle, une histoire événementielle, etc., il n'est pas évident que la science-fiction soit un outil pour mieux penser l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, pour terminer cette introduction, c'est que pour moi, la science-fiction est un outil de diffusion de la culture historique. C'est-à-dire de comprendre ce qu'est l'histoire pour une société et de quelle manière cette histoire contribue à l'identité d'une société. Et la science-fiction, par le détour de l'imaginaire, le fait très fréquemment. J'ai des tas d'exemples. J'ai cité Asimov, on va citer Robert Heinlein, dont on a parlé. Toute l'œuvre de Robert Heinlein est une revisitation, par le détour de la fiction, de l'histoire américaine, de l'histoire de la démocratie américaine et des valeurs et des événements qui l'ont forgée. Révolte sur la Lune, c'est un hommage transparent à la Révolution américaine et à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donc l'histoire et la science-fiction sont étroitement liées, l'une étant une source d'inspiration de l'autre, bien souvent. Voilà.
Merci. Qu'en pensent les autres ? Enfin, je vais m'adresser à Francis Valéry tout de suite, parce que tu as écrit une uchronie. Donc, quelle est la démarche dans ces cas-là de création ? Écrire une uchronie, c'est tout de suite s'emparer de l'histoire, oui, pour en faire autre chose.
C'est s'amuser avec.
Oui.
Effectivement, j'ai écrit... Et publié il y a maintenant une dizaine d'années, donc je m'en souviens pas très bien, enfin je ne l'ai pas jamais relu depuis, mais un livre dans lequel, autant que je me souvienne, vers 1870, l'histoire avait commencé, enfin les événements avaient commencé à diverger dans mon univers de ce qui s'était passé dans le nôtre, ce qui fait que le bouquin qui se passait, je crois, vers 1910, quelque chose comme ça, dans une Europe où... où la commune de Paris n'avait pas connu le sort qu'elle a connu, où les divers Napoléons en avaient connu un autre, etc. Donc on était dans une Europe plutôt pacifiée, mais où malgré tout, une guerre, une confrontation européenne était quand même sur le point d'arriver. Donc le ressort du livre, c'était qu'un certain nombre de sociétés maçonniques dans les divers pays européens essayaient d'unir leurs forces pour empêcher qu'arrive une guerre mondiale. Là-dessus se greffait une expédition qui partait en Afrique chercher des ruines d'une cité perdue, tombait sur un vieux dinosaure survivant. Là-dessus, on rencontrait des extraterrestres qui étaient sur Terre depuis bien longtemps. Et, Et dans le bouquin, il y avait à peu près 60 ou 70 personnages historiques réels, des hommes politiques, des écrivains, des savants, qui passaient dans le bouquin. Schweitzer, à un moment, on le voyait passer dans un bateau pendant qu'il se rendait à Lambaréné pour faire son... Donc j'avais beaucoup travaillé sur le réel. Je raconte aucune bêtise dedans.
Oui, une grande recherche documentaire.
Une grosse recherche documentaire. Simplement, je m'étais dit, Claude Farrère, il fera peut-être autre chose. Pierre Loti, il sera quand même Pierre Loti, mais il sera peut-être plus Julien Viau que Pierre Loti. Enfin, je m'étais totalement amusé à faire ça et à faire un roman qui ressortissait à tous les genres. À l'époque, j'étais dans une recherche un peu esthétique, d'esthétique de fusion, mélangeant le polar, le steampunk. C'était un univers où le futur était arrivé plus tôt. Il y avait de la technologie. Donc moi j'ai fait ça, je ne suis pas historien du tout. Simplement, j'avais envie à la fois de faire un livre qui n'était pas un roman classique dans sa narration. C'est-à-dire que ce bouquin est composé de coupures de presse, d'enregistrements de dialogue. C'est une espèce de foutoir formel. Et puis, c'est un grand jeu, en fait. Moi, je suis pas historien. L'histoire m'intéresse comme elle peut intéresser n'importe qui, parce que ce qui arrive aujourd'hui est le fruit de ce qui est arrivé hier, et ce qui arrivera plus tard sera le fruit de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc tout ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe pour faire en sorte de faire advenir un futur le moins épouvantable possible. C'est en ça que l'histoire m'intéresse. Après, le lien entre l'histoire et la littérature et la science-fiction, pas mieux que ce que tu peux dire. Pour moi, c'est un jeu, c'était vraiment purement un jeu intellectuel, littéraire. Je suis pas un intellectuel de ce point de vue-là, et j'ai rien à théoriser sur les rapports entre l'histoire et la science-fiction. Quoi.
Ce n'est que c'est un jeu.
Oui, c'est tout. Ouais.
C'est une source d'inspiration majeure, en fait. Hein. C'est Glenn Cook qui disait, parce qu'en fait, il y a eu aussi une journée professionnelle pour les bibliothécaires. Donc les auteurs que vous avez vus, certains sont intervenus là-bas aussi. Et Glenn Cook a dit quelque chose. Je me permets de le redire, hein,
puisque
Il n'est pas là pour le dire. Tout à l'heure, il était là, mais enfin pas là maintenant. Il a dit je lis à peu près 50 pages d'histoire par jour. Voilà, c'est une règle que je me suis fixée.
Pour s'imprégner.
Voilà, pour s'imprégner tous les jours. Je lis soit des essais historiques, soit des revues historiques, etc. Pour s'imprégner, c'est une sorte de règle de vie qui s'est imposée. Donc tous les jours, il lit 40 à 50 pages de textes historiques. Qui alimente son inspiration. Finalement, d'autres auteurs font ça avec les revues scientifiques, les revues de vulgarisation scientifique. Il y en a qui lisent Science et Vie, Science et Avenir, La Recherche, etc. tous les jours. D'autres lisent des articles de chercheurs plus pointus. On peut faire pareil avec l'histoire. Enfin, je pense que tous ceux qui sont là ont une culture historique qui les a nourris et qui entre dans leur récit. Quoi. Enfin, Jeanne, je ne sais pas.
Ah, et forcément, moi. Le dernier livre d'histoire que j'ai lu, c'était Rome, les armes et les mots de Lucien Gerfagnon. En fait, je triche, je l'ai relu parce que Lucien Gerfagnon est mort il y a quelques mois, et même pas il y a quelques mois, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est un des grands latinistes, hellénistes français. Il a revisité la façon de penser la culture latine en France à la lumière des événements historiques depuis la chute de l'Empire romain. Il a travaillé dans les armes et les mots, notamment. Il démontre à quel point la culture latine a servi de vecteur politique aux divers régimes que la France a connus. C'est pas un roman, mais ça se lit comme ça. Lucien Gerfagnon a un humour absolument fabuleux et ça transparaît à toutes les pages, même au moment où il est le plus sérieux. Pour moi, effectivement, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis toujours. De toute façon, sans être historienne, je travaille forcément avec l'histoire de la littérature, déjà, de base. En tant qu'écrivain, c'est un autre problème. Je dois avoir écrit deux histoires qui se passent dans le passé, une en 1940 et une autre qui tire ses racines 700 ans à l'avant, en arrière. Mais normalement, ça n'est pas ma stratégie d'auteur. L'histoire sert de couche symbolique, de substrat sur lequel s'appuient les événements extérieurs, enfin les événements de mes romans. Malgré tout, j'ai mis en place, en fait, au fur et à mesure, depuis ma toute première nouvelle parue aux éditions ActuSF il y a presque 10 ans maintenant, une histoire qui commence en 2000 et qui s'arrête en 2080 et qui prend en compte tout ce qui, ces 80 années d'une histoire que, à la fois, je regarde se dérouler, la nôtre, celle que vous connaissez jusque-là en 2011, et tout ce que j'envisage derrière. C'est une fresque à la... Redonne-moi, aide-moi, Heinlein. C'est un peu... J'essaye de faire une petite histoire du... Une petite histoire du futur, mais versus fantastique, puisque c'est une histoire du futur dans laquelle interviennent des ogres, des vampires, un génie, au sens un djennoun, pas Aladdin, hein, mais bleu quand même, un serial killer de fées, le diable. La dernière nouvelle de ce cycle va paraître dans une anthologie de Jacques Bedoux. Elle s'appelle Jingle Hells et en fait elle raconte donc 2012 et comment on va échapper à l'apocalypse en fait. Voilà. Et comment on va arriver jusqu'en 2080, qui est la dernière nouvelle du cycle et qui s'appelle Le blues du vampire, le soir au-dessus des paraboles. J'ai donc écrit une histoire à moi, mais qui prend ses racines dans le réel. Cela dit, j'utilise évidemment des faits d'abord réels et puis des mécanismes aussi qui se sont déjà produits, dont je connais l'implacabilité. Voilà. Et je te laisse la parole, Francis, parce que après tout, la patate est chaude et la voilà.
Alors, moi, je vais reprendre ton idée d'apocalypse. Je signale à tous ceux qui ne s'en sont pas aperçus qu'on vient juste d'y échapper, puisque l'apocalypse, c'était ce matin à 11h11, hein, 11 novembre 2011, à 11h11, c'était une des nombreuses apocalypses auxquelles on a échappé. Là. Donc, on est toujours là, on y a survécu, voilà, tout va bien. Ouais. Peut-être pas, peut-être sommes-nous juste des projections astrales de nous-mêmes. Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que l'approche que j'ai de la question posée est assez différente. La science-fiction me paraît en fait un reflet de l'histoire, mais de l'histoire du moment où elle est écrite. Hein, si on regarde l'évolution au cours du XXe siècle de la science-fiction, on s'aperçoit que au début, la science était présentée comme la panacée universelle, ça allait apporter la liberté, ça allait ouvrir des horizons extraordinaires et des tas de possibilités. Là-dessus est arrivée la bombe d'Hiroshima, qui a marqué une cassure très très nette dans l'attitude des auteurs par rapport à la science, en les mettant en face de ces aspects négatifs. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à développer les conséquences hypothétiques négatives des progrès de la science à leur époque. Donc ce qui était une démarche totalement différente et historiquement extrêmement intéressante et extrêmement significative de ce qui s'est passé au XXe siècle. Et si on continue à suivre ces auteurs au fil des années 60, 70, 80, on s'aperçoit que de plus en plus, ils annoncent un univers où la Terre ne va plus être viable. Au niveau du climat, au niveau des ressources naturelles, au niveau de tout un tas de choses, à une époque où le mot écologie n'existait pas. Et en fait, ils ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme de l'écologie et des périls que les progrès techniques faisaient courir à notre propre survie et à notre propre planète. Sujet qui est maintenant devenu passer totalement dans notre quotidien, dans notre vécu, Et donc les auteurs de science-fiction ne parlent plus puisqu'ils ont fait, leur boulot. Je ne sais pas de quoi ils parlent en ce moment parce que moi j'en lis plus tellement de science-fiction. Mais
ils parlent de catastrophes climatiques.
De quoi parlent-ils en ce moment? Ils continuent à parler de catastrophes climatiques?
Mon dernier roman est une catastrophe climatique, mais on s'en tire. Voilà, il a fallu des super pouvoirs pour ça. Tu vois à quel point je suis optimiste encore.
Oui. Voilà. Au moment où est apparu le sida, ont été publiés un certain nombre d'ouvrages justement explorant cette maladie. Je me souviens que mon roman Rivage des Intouchables est paru chez De Noël exactement le même mois que le recueil Les années fléaux de Norman Spinrad, les deux traitant exactement de cette problématique-là qui n'avait pas encore pris toute sa dimension mais qui commençait à la prendre. Donc là aussi, la science-fiction se faisait un reflet de l'histoire. De l'histoire qui lui était contemporaine. Et quand j'ai publié mon premier roman, La Lune Noire d'Orion, en 1980, c'était un reflet du militantisme gay de cette époque-là. Je ne pourrais plus écrire à l'heure actuelle un tel roman parce qu'il ne serait pas du tout le reflet de la situation réelle. Donc, historiquement, ce roman est très daté. Il est écrit sous forme de space opéra, mais c'est le reflet du point où en était la société mondiale à cette époque-là. Et à ce niveau-là, la science-fiction a un rôle quand même, je pense, très intéressant, qui est d'extrapoler à partir de l'instant présent. Qu'est-ce qui va se passer si on pousse jusqu'à l'absurde tel problème qui se pose en ce moment ? Voilà.
Mais pour compléter ce que vous a dit Francis, on avait fait un colloque en 2005 à Nice sur la science-fiction et l'histoire. Hein. Et où on avait identifié autre chose, c'est exactement ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire que la science-fiction pourrait peut-être être un outil pour les historiens, non pas pour trouver de nouveaux modèles d'histoire, mais pour, comme un état des lieux, des mentalités, et du regard jeté sur la société et sur l'évolution des mentalités à un moment donné. C'est-à-dire que la science-fiction est un magnifique révélateur des problématiques d'une société au moment donné où ces problématiques émergent. C'est-à-dire que les auteurs de science-fiction, contrairement à ce qu'on croit parfois, ne sont pas du tout des devins ou des auteurs doués de prescience, pas du tout. Ils sont simplement parmi les premiers à ressentir les frémissements du changement. Et par conséquent, lorsque vous lisez un roman de science-fiction des années 70, lorsque vous lisez un roman de science-fiction des années 60 ou des années 50, bon, je pense à la guerre froide, à la libération des mœurs, etc. Souvent, il y a dans ce texte la problématique, les enjeux qui étaient ceux qui commençaient à frémir dans la société. Et en ce sens, plus que la littérature générale qui parfois, avec orgueil, peut-être un orgueil légitime, mais avec orgueil prétend à l'intemporalité, prétend nous parler de l'humain dans son intemporalité, la science-fiction, au contraire, nous parle de l'humain dans ses contingences. Et souvent, quand vous voulez faire l'histoire des mentalités, il est souvent un roman de science-fiction est très utile parce qu'il vous montre voilà ce qui préoccupait véritablement les gens, la population, à un moment donné. C'est pour ça qu'on a beaucoup de romans post-apocalyptiques dans les années 50-60, beaucoup de romans sur la menace écologique et l'effondrement climatique dans les années 60-70, sur l'hiver de Harry Harrison et autres, et beaucoup de romans sur le cyberpunk, dans les années 80, c'est-à-dire, vous voyez, le cyberpunk, c'est l'impact des réseaux sur les comportements sociaux. C'est arrivé avant que les réseaux soient généralisés. On est tous connectés. Là, on a tous notre smartphone, on a tous nos, on tweet, on machin, ça. Mais au moment où c'est arrivé, bien avant que ça soit généralisé, démocratisé, etc., William Gibson écrit Neuromancien.
Ou alors, voilà. John Brunner écrit sur l'onde
de choc.
Ou John
Brunner écrit sur l'onde de choc, ou tout ça sans Zanzibar.
Qui est absolument, du point de vue sur Internet.
Donc la science-fiction peut être un outil d'histoire. Voilà. Elle ne va pas jusqu'à modéliser l'histoire, peut-être. Mais
je crois que le problème, c'est que ce que tu appelles un frémissement est, depuis quelques années ou quelques dizaines d'années peut-être, devient de plus en plus une sorte de bouillonnement quasi instantané, à savoir que ça frémit tellement vite et qu'on a l'impression, on en a parlé un petit peu dans un autre débat, que le futur est comme un mur de plus en plus haut vers lequel on s'approche de plus en plus vite. peut-être une accélération des processus historiques, des mutations de la société, et c'est justement de plus en plus difficile pour la science-fiction de fonctionner, comme tu as expliqué de manière très juste son fonctionnement. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'écrivains, dans les 10-15 dernières années, ont tourné le dos au mur, parce qu'il arrivait trop vite et ça devenait impossible de voir derrière. Ça devenait quasiment impossible de raconter des choses intelligentes sur ce qui allait se passer dans 5 ans, parce qu'on était foutrement incapable de le dire, vu que même à 2 ans, on n'y arrivait pas. Et beaucoup de gens, soit ont exploré ce que Morin, pour parodier Morin, ce qu'on pourrait appeler la culture de la culture, c'est-à-dire à faire de la science-fiction une espèce de jeu postmoderne, mélangeant néoclassicisme, postmoderne, en jouant sur ses codes et en faisant une espèce de nouvelle SF faussement classique, mais qui était très excitante. Enfin, moi, ça m'éclatait bien d'écrire ce genre de choses. Ou alors, des écrivains se sont tournés massivement vers la fantasy, c'est-à-dire vers le passé, parce que c'était peut-être plus simple de réinventer le passé que se coltiner au futur et jouer effectivement ce rôle d'agent dont l'histoire était un des outils, l'examen de je vais comprendre, je ne suis pas sûr.
Sauf qu'un d'entre nous nous a donné un joker formidable, c'est Vernon Vinge, qui nous a donné la singularité. Il nous a dit, voilà, à partir d'un certain moment, l'horizon des événements sera imprévisible. Et à partir de là, on retrouve des auteurs comme MacLeod, comme lui, comme Vinge, comme qui encore, Hugo, par exemple.
Singularité en France, qu'est-ce qui a parlé de singularité? Thomas D.
Thomas D, ouais. Voilà.
Dans Lumière Noire, dans Retour sur l'horizon.
Tout à fait.
Effectivement, le mot est apparu il y a déjà plus de 20 ans dans des magazines de science-fiction américains. Je me souviens, il y avait des énormes dossiers qui arrivaient, qui parlaient de la singularité. Nous, on se demandait ce que c'était. Ils expliquaient ça, effectivement. Et alors, c'est tout à fait vrai, mais pourquoi? Sauf que, je veux dire, on a pris ça sur le nez quand même. ça s'appelait juste comme ça, effectivement. On peut l'appeler comme ça.
Ouais. Mais ouais. Peut-être.
Pardon, il y a la veillée de Newton de MacLeod, par exemple, qui reprend, qui parle de l'évolution des machines au point qu'elles deviennent totalement incompréhensibles. Et en même temps, l'humanité se retrouve engrangée dans la matrice, un peu. C'est la singularité de MacLeod. On n'est pas tellement loin, en fait. Les travaux sur la cyberesthésie, sur le cerveau à l'intérieur, connecté à la machine, ça commence à y ressembler terriblement. Yeah. Et ça, l'archéologie de combat, oui, effectivement, c'est super classe. Faut essayer.
Il y a peut-être un paradoxe qui peut être éclairé par l'histoire sur ça, en fait, qui est intéressant. Enfin, moi, je vais le faire comme ça, mais... cette singularité, on en parle donc Vernon Vinge, hein, c'était 88 à peu près, donc ça va faire oui. 20 ans, enfin plus de 20 ans. Ouais. Donc on attend, ça fait presque une génération, hein, on y est là, hein, qu'on attend cette singularité.
Mais on y est en fait.
Voilà, en fait le paradoxe c'est qu'on y est. C'est un peu, moi ça me fait penser, pour refaire de l'histoire, hein, parce qu'en fait là on est en train de voir si l'histoire permet de penser à la science-fiction, mais c'est pas grave. Mais donc, est-ce que l'histoire permet de penser à la science-fiction? Par exemple, si vous regardez l'état des mentalités, alors je vais parler de ce que je connais, parce que un peu, mais pour la chute de l'Empire romain d'Occident, moi, ce que j'essaye d'enseigner à mes gamins à la fac, en fait, cette chute de l'Empire romain d'Occident, peut-être vous vous souvenez de votre date, hein, dans vos histoires du secondaire, 476, chute de l'Empire romain d'Occident, déposition du dernier empereur romain, qui se trouvait d'ailleurs s'appelait Romulus Augustule, comme le premier empereur, enfin comme le premier fondateur de Rome. 476, Rome s'effondre. Mais en réalité, pour les contemporains, personne ne l'a compris, personne ne l'a vu. Parce qu'en réalité, pour les contemporains, l'effondrement avait déjà eu lieu. Puisqu'en réalité, depuis pratiquement le milieu du IVe siècle, Rome s'effondre. À tel point que Rome n'est même plus capitale. Et par exemple, le sac de Rome par les barbares, entre guillemets les barbares bien sûr, les Visigoths d'Alaric en 410, c'est déjà, pour les contemporains, probablement la chute de l'Empire. Alors, si on fait un parallèle entre la chute de l'Empire et la singularité, le paradoxe qu'on peut voir, c'est que finalement, cette singularité qu'on attend, qu'on redoute et qui nous semble comme un mur impossible à appréhender, peut-être qu'on a déjà été, on l'a déjà dépassé, on est peut-être complètement déjà dedans sans même s'en rendre compte, et qu'à force de l'attendre, on ne la voit pas passer. Et s'il y a une leçon que l'histoire peut nous donner sur ça, c'est que lorsqu'on a tendance à trop projeter un concept sur la réalité, comme c'est toujours une simplification de la réalité, on finit par passer à côté. Voilà. Et donc il est possible que cette singularité technologique que nous redoutons tant et que soi-disant les auteurs que nous sommes et que les lecteurs que vous êtes n'arrivent pas à penser, elle est peut-être déjà complètement parmi nous et on ne s'en rend pas compte.
Moi, il y a un ouvrage auquel je ne cesse de penser là depuis 10 minutes, c'est Fahrenheit 451, qui évoque une société où on n'a plus le droit de publier des livres et les livres sont condamnés, sont interdits et les gens doivent apprendre par cœur les livres pour transmettre la mémoire, etc. Ce qui m'est diamétralement opposé à ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, ce livre-là, à l'époque d'Internet et à l'époque du téléchargement, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment très bizarre. Ça n'a plus aucune pertinence. Et en même temps, ça en a quand même une. Et c'est très emblématique de ce qui pouvait du questionnement qui pouvait se passer à cette époque. Et c'est aussi emblématique, peut-être, de la manière dont le livre est aussi en train de mourir en ce moment, mais d'une toute autre manière.
Cela dit, nos collègues de littérature générale prédisent la mort du roman du fait de la numérisation.
Oui, mais Barthes a aussi prédit la fin de l'art.
Je n'ai pas dit qu'ils ne fumaient pas, nos collègues de littérature générale, mais ils sont terrorisés effectivement par l'arrivée du numérique. Est-ce que les gens vont avoir le courage de lire les 800 pages de Rêve de gloire sur une liseuse, alors que ça serait un format qui, a priori, je parle du format numérique, qui, a priori, faciliterait plus l'usage des textes courts, agrémentés d'images intertextuelles, d'hyperliens, etc. Mais après tout, c'est pas super grave. Je l'ai déjà dit une fois, si le roman meurt, on trouvera autre chose à raconter. On trouvera une autre façon de raconter les histoires, même de façon littéraire. Mais on est peut-être en train de vivre la singularité de la littérature. Ça c'est bien possible.
Là, je me garderai bien de...
Nous verrons bien.
Je ne suis pas certain qu'on soit tout à fait dans le sujet du débat depuis un moment. Donc, on va se recentrer un petit peu. Ouais,
Surtout qu'en même temps, on s'en fout un peu, quoi.
Peut-être pas les gens qui sont venus pour écouter.
Non, mais je veux dire, quand le traitement de texte est arrivé, tout le monde a dit ouais, c'est à cause du traitement de texte que les mecs font des trucs de plus en plus longs. Sauf qu'en fait, c'est aussi simple de faire de plus en plus court avec un traitement de texte. C'est aussi facile à couper qu'à allonger la sauce. Il n'y a que Stephen King qui n'a jamais compris ça. Alors, si les liseuses doivent. Peut-être que c'est la fin du roman, mais en fait, on s'en fout un peu. Comme elle dit, on trouvera une autre manière de s'éclater avec des mots, puis d'essayer de vous éclater aussi. C'est pour ça, on s'en fout un peu, je dis ça gentiment, quoi.
Puis c'est une manière, moi on s'en fout, oui. Et puis c'est une manière de diffuser, non mais c'est vrai, mais c'est une manière de diffuser encore plus la culture et les bouquins finalement, les liseuses. Enfin je veux dire, imaginez tous les gens ici dans la salle, si vous aviez tous des liseuses, projetons-nous dans 5 ou 6 ans quand ce sera vraiment pas cher et démocratisé. Vous aurez tous sur vous des centaines de milliers de bouquins. Et sans ployer les épaules, ni vous sentir fatigué. Parce que vous aurez une petite liseuse avec vous. C'est quand même vachement chouette.
C'est pas forcément la mort du poids en trop. Pour ceux qui prennent l'avion.
C'est sous réserve qu'on trouve quand même un système pour qu'on continue de toucher nos droits d'auteur. Enfin bon, je dis ça comme ça. Ouais.
Mais ça, c'est un autre débat.
Cela dit, pour mettre mon grain de sel dans le débat, on a aussi constaté que quand une technologie arrive, elle tue pas celles qui l'ont précédée, elle se surajoute. Donc bon. Moi, je fais partie des gens relativement sereins pour le papier, finalement, parce que ça devrait pouvoir cohabiter harmonieusement tout ça. On va peut-être. Alors, en fait, ce que vous savez pas encore, c'est que le débat de ce soir va être un tout petit peu plus court parce que il y a une ou deux personnes. Bon, on s'arrête à -10 parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont missionnées pour le concours de nouvelles. D'ailleurs, auquel je vous invite à vous rendre parce qu'il y a des choses intéressantes visiblement. On va peut-être passer tout de suite aux questions du public. Je suis sûr que vous piaffez d'impatience de poser des questions sur la singularité de la littérature, ou pardon, sur l'ASF et l'histoire. Ah, il y a une question ici. Le micro arrive tranquillement. Tranquillement, ne faites pas trop d'efforts. La charmante dame brune. Je n'avais pas vu.
Merci, bonsoir.
Moi, je regarde que les dames brunes.
Sous cette optique où la science-fiction peut permettre de mieux penser l'histoire. Je me demande si, plus loin encore, elle pourrait avoir le pouvoir d'influencer l'histoire, comme elle a pu le faire des fois avec les sciences.
De toute façon, elle influence l'histoire parce qu'elle influence les sciences. Et lorsque les sciences, ce sont les sciences des armes de guerre, par exemple, ça influe salement, quand même. Tu voulais dire quelque chose ? Non,
vas-y. Non, bah, je vais dire après, mais vas-y.
Eh bien voilà, moi c'était juste ça, tu sais, je suis... Voilà, non, alors, après c'est Francis.
Non, la question c'est est-ce que la science-fiction peut modifier l'histoire ce qui va devenir l'histoire en fait. Bah, comme toute littérature finalement, comme tout débat d'idées, comme tout un texte en particulier peut avoir une influence sur un mouvement social en cours, sinon l'impulser, du moins l'accompagner, et donc elle peut contribuer à faire l'histoire, oui. Maintenant, c'est pas propre à la science-fiction.
Non, et puis notre dernier essai, qui était la science-fiction contre Adopi, n'a pas fait grand-chose, hein, j'ai eu l'impression.
Tu sais pas comment serait le monde sans cet essai-là, peut-être.
Certes.
Enfin, la science-fiction n'est pas non plus une puissance magique qui peut conjurer le futur. Hein, ça, c'est...
Non, non, ça, c'est la fantaisie. Ça fonctionne davantage.
D'ailleurs, je vais être un peu provocateur. Je ne sais pas si on est vraiment les meilleurs rebelles, nous, aujourd'hui. Ça va peut-être énerver certaines personnes, y compris à cette table, mais... tant pis, je pense plus que la science-fiction soit aujourd'hui la littérature la plus avant-gardiste ou la plus rebelle qui soit, ou le mode d'expression artistique, pour dire des grands mots, le plus rebelle qui soit. Je pense que aujourd'hui, parce que justement elle a gagné, pas ses lettres de noblesse, mais elle a gagné sa notoriété et sa diffusion, elle fait partie de la culture générale aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas simplement le nombre des personnes qui sont là, mais dans l'ensemble de la culture, maintenant, la science-fiction, elle est bien diffusée. Elle est présente. Les classiques de la science-fiction sont de plus en plus connus, même si parfois, ce sont vraiment des classiques. Et du coup, la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'elle est devenue, finalement, une part de la culture, une part importante de la culture? Elle a pollinisé, comme ça, nos représentations culturelles. Il n'y a pas que la science-fiction, il y a tout un tas d'autres sources. Est-ce qu'on est encore vraiment à l'avant-garde? Est-ce qu'on est encore... La ligne de crête, est-ce qu'on est sur la frontière du futur vraiment? Bien sûr, au niveau de la technique, oui, traditionnellement, on a toujours une anticipation, on a toujours un temps d'avance sur la technique. On a parlé des réseaux avant qu'ils arrivent, on a parlé de l'impact social de l'informatique avant, on parle d'intelligence artificielle alors qu'elle n'est pas encore concrétisée, peut-être le sera-t-elle jamais, peut-être le sera-t-elle un jour, je ne sais pas. Mais il n'y a pas que la technique, hein. La science-fiction, c'est aussi toutes les sciences sociales, etc. Je ne sais pas si on est vraiment encore les plus avant-gardistes. Est-ce qu'il n'y a pas... dans les replis des réseaux, dans les blogs, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moteurs ou d'autres moyens que la science-fiction qui font mieux que la science-fiction aujourd'hui? Je me pose la question. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être à la fois les rebelles et avoir à la fois la reconnaissance du grand nombre.
Cela dit, notre reconnaissance est quand même relativement toujours limitée. Mais ça ne fait pas plus de nous des rebelles. Hein.
Ouais, moi je dirais. Enfin, bon.
C'est pas super rock'n'roll.
C'est vrai qu'on vend pas assez de bouquins, ça c'est clair. Mais est-ce que notre reconnaissance est vraiment limitée?
Une position générale, alors qu'en fait il faudrait envisager séparément chaque roman. Il y a des romans qui sont encore à l'avant-garde, il y en a d'autres qui n'y sont pas.
Oui, non, mais je disais de façon générale. Après, au cas par cas, bien entendu, oui, tout à fait.
Plus simplement, et pour mettre mon grain de sel dans l'histoire, je pense que la science-fiction a tout simplement gagné la guerre par dissolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science-fiction, l'état d'esprit science-fictif, l'esthétique science-fictive est une composante fondamentale de la culture dominante. C'est pas plus compliqué que ça. Simplement, le fait d'avoir gagné la guerre, est-ce que ça nous rend... en tout cas, on n'est plus des rebelles. Et est-ce que ça nous rend plus malins pour autant? J'en sais rien. On disait ça de l'écologie il y a quelques années. À force que tous les partis, même les partis de droite ou les partis les plus ringards, se mettent à parler d'écologie, finalement, les écolos, on a gagné la guerre, mais on a gagné la guerre en disparaissant et on s'est fait niquer, en fait. Donc je pense que la science-fiction, pour parler poliment, c'est un petit peu fait niquer aussi en gagnant le combat. Moi, je vois les choses comme ça. Et pour répondre de manière très simple à la question que vous avez posée, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans les précédents débats, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a une partie de ping-pong permanente entre le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire entre d'une part toutes les formes de création littéraire, artistique, et d'autre part tout ce qu'on peut être amené à considérer comme étant le réel, c'est-à-dire qu'un nombre suffisamment de gens, à un moment donné, estime être la réalité. Et dans ce jeu-là, la science-fiction s'en tire pas trop mal, mais le réel, enfin l'imaginaire, la création se nourrit fondamentalement du réel, se nourrit par l'observation de tout ce qui est autour de nous. Les écrivains sont des boîtes à outils sensoriels, tous les créateurs qui bouffent tout ce qu'il y a autour d'eux et qui ensuite rendent quelque chose. Et le réel, paradoxalement ou pas, souvent se débrouille pour se rendre conforme à ce que l'imaginaire a dit qu'il était. C'est compliqué, je ne veux pas prendre des exemples parce que ça nous amènerait trop loin et c'est complexe comme question. Mais je pense vraiment que ça fonctionne comme ça.
On va prendre une dernière question dans la salle, le jeune homme qui voulait la poser depuis tout à l'heure.
Oui, bonsoir. Vous avez soulevé une question intéressante qui était: qu'est-ce qu'un événement historique ? Ne regardez pas. J'aimerais savoir...
Hugo, Francis ?
Oui, vous avez posé une question intéressante qui était qu'est-ce qu'un événement historique ? Moi, j'aimerais savoir surtout qu'est-ce qui fait qu'on traite un événement historique ? C'est-à-dire que, par exemple, pour le steampunk, admettons, il disait que la manière dont ils anglaient ça, c'était pas des trucs très politisés. Là, on parle de la... Enfin, la science-fiction a gagné, mais au final, elle s'est mollie. Est-ce qu'on risque pas de retomber dans des... Enfin, dans les uchronies, dans des événements poncifs avec un traitement trop arrangé ? Enfin, avec un traitement trop arrangé, très consensuel au final, quoi. C'est très littéraire comme question.
Je n'ai même pas compris la question.
Bon, moi je ne sais pas si j'ai compris
bien
la question.
Mais tu fais référence au steampunk et c'est pas.
Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment pas mes lectures donc.
Mais enfin sur l'événement. Oui, voilà. Mais sur l'Uchronie, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser un événement historique ou qu'on va le considérer comme historique dans l'Uchronie, c'est ça ?
Ouais, voilà, ouais.
Ouais. Mais en fait. Il y a des événements historiques très classiques qui peuvent donner des romans très différents. Et on n'est pas obligé de prendre un événement historique très pointu ou très érudit ou tout ce que tu veux pour faire une bonne uchronie ou pour faire des uchronies différentes. Je prends un exemple, la tarte à la crème ultime de l'uchronie. Bon, enfin, c'est Hitler, la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, il y a des uchronies très différentes écrites avec ça. Il y a, par exemple, Fatherland de Robert Harris, oui. Le maître du haut château de Philip K. Dick, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Rêve de fer.
Rêve de fer de Norman Spinrad, etc.
SSGB de Lennington, qui est
un. Oui, et en Italie, puisque je vois mon ami Tommaso Pincio ici au premier rang, il y a Ricardiello, qui a fait une uchronie avec Hitler sur la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle, je ne sais plus, mais enfin, Ricardiello, c'est un des auteurs, un de tes...
Le chant du corps d'Olivier Sarban ?
Non, peut-être, oui. Ouais. Oui, peut-être, oui. Mais ouais.
Qui est un autre texte.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, je veux dire, on peut prendre un événement classique et livrer des uchronies très différentes. Ce n'est pas parce qu'on prend un événement cliché ou un poncif, comme tu disais, que c'est forcément un problème à la qualité du texte derrière. Au contraire, inversement, un événement trop pointu pourrait finir par faire un texte érudit, complètement abscon et que personne n'apprécierait.
Et pour faire un parallèle polar, hein. Stupide, ce n'est pas parce qu'on parle de dragon qu'on fait le même roman de fantasy. Oui. Voilà, c'est aussi bête que ça.
Et ensuite, tu demandais ce qui fait qu'un événement est historique, en fait. Alors là, je peux te répondre aussi en tant qu'historien du droit, simplement, mais un événement historique, à partir du moment où il rentre dans ce qui fait l'identité d'une société. C'est-à-dire lorsqu'il est utilisé comme étant constitutif d'une histoire qui est considérée comme celle collective d'une société. Un événement historique n'est historique que lorsqu'il touche une collectivité. Si c'est un individu seul, vous vivez tous les jours dans vos vies des événements dramatiques ou heureux, ils n'ont rien d'historique. À partir du moment où il y a un impact sur une communauté, quelle qu'elle soit, on peut commencer à parler d'événements historiques. Et les auteurs de science-fiction dont le sujet ou dont le personnage favori, c'est quand même la société, enfin moi c'est quelque chose que je crois, je pense qu'il y a la plupart des romans de science-fiction parlent des sociétés comme de personnages vivants, évoluants, etc., donc naturellement ils vont aller chercher des événements plutôt historiques. Mais il y a des contre-exemples, hein. Il y a Ripley de Greenwood Ripley de Ken Greenwood qui parle des événements d'uchronie personnelle, ce qu'on appelle les uchronies personnelles. Voilà. Donc,
de façon assez amusante, là, nous sommes en plein anniversaire d'un drame ou d'un événement historique qui n'était pas vraiment le nôtre, le 11 septembre. Et juste à côté, tu peux mettre en parallèle un autre événement historique qui, lui, pour le coup, est franchement le nôtre, c'est la chute du mur de Berlin. Lorsque nos médias matraquent là, avec constance, le 11 septembre, parfois, moi j'ai l'impression que les Français n'en ont rien à faire, tu vois. Alors que nos journaux n'arrêtent pas et que tout à l'heure, ce matin, j'étais en train d'en parler avec deux Américains et un Irlandais. Et Ian McDonald disait, mais ça n'est pas mon désastre, je ne comprends pas pourquoi on nous matraque avec ça. Il faut définir effectivement quel événement fonde l'identité d'un peuple. Et force nous est de constater que, malgré tout, le 11 septembre, qui n'est pas notre catastrophe, qui n'est pas notre traumatisme, est un événement historique autour de laquelle notre identité commune et mondiale s'est fondée. Alors que la chute de l'Union soviétique, symbolisée par le mur de Berlin, d'un point de vue à la fois économique, social, l'Allemagne est encore en train de le payer, cette histoire quand même. Et l'Allemagne, c'est un des pays leaders de l'Europe. Tout économiquement parlant, ne serait-ce que ça, nous sommes en train de le vivre. Et ça n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'un avion qui est allé écraser deux tours, pardon, deux avions qui sont allés écraser deux tours outre-Atlantique. Un trauma affectif.
Oui, enfin,
pour reprendre un petit peu, pour essayer à votre question, pourquoi on choisit tel ou tel événement, je pense que dans l'Uchronie, il y a un petit côté polar. C'est-à-dire quand on écrit une Uchronie, on joue avec le lecteur, on essaie de faire de la rétention d'informations pour que le lecteur devine un petit peu le monde dans lequel on est. Quel événement a changé pour qu'on soit dans le monde dans lequel se passe l'histoire? Donc ça, si c'est un événement, si c'est parce que Napoléon a gagné à Waterloo ou Hitler a gagné à la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu bonnet, c'est trop facile. Donc souvent on a tendance à prendre des petites choses qui dans l'histoire, dans la vraie histoire, sont des petites anecdotes de rien du tout, puis nous on montre que finalement, bah voilà, c'est quand même, si ça s'était pas passé comme ça et que ça se serait passé comme ça, non, tu vois, donc c'est... Moi, en tout cas, c'est plus ça, quoi. C'est plus, je reviens à ce que je disais. Moi, je m'amuse quand j'écris des uchronies. J'ai écrit ce bouquin, mais j'en ai écrit d'autres sous forme de nouvelles. Et c'est l'idée, c'est de m'amuser avec le lecteur. Peut-être parce que j'écris aussi, à une époque, j'ai écrit beaucoup de bouquins pour les ados. Donc, il y a ce côté s'amuser avec les gens, tu vois.
On va s'arrêter là. On va dire que c'est le mot de la fin, puisqu'il y a deux personnes qui doivent nous quitter un peu précipitamment maintenant. Donc. En tout cas, je vous remercie de votre attention puis d'être venu nous
écouter. Merci à
tous.
Bonne
soirée. Merci aux auteurs. Je précise une nouvelle fois que vous pourrez retrouver nos amis les écrivains en dédicace plus probablement demain que ce soir. Mais je vous invite à les rejoindre à ce moment-là pour leur roman.